Matthieu 9, là, ça bouge encore un peu. J'ai pas l'intention, j'ai pas l'impression d'avoir l'attention de tout le monde. Là, en parlant de ma femme, y a-tu du monde dehors encore? OK. Ben là, parce qu'on veut pas vous retenir jusqu'aux petites heures cette nuit, là. Faut qu'on commence, on veut finir, là. Donc, Matthieu 9. Il nous restait là. Ça faisait un petit bout quand même parce que, quoi, ça fait-tu deux ou trois semaines qu'on n'a pas. Oui, c'est ça. Ça fait au moins deux semaines parce que la semaine passée, c'était le repas du Seigneur et on n'a pas fait le livre de Matthieu. Puis là, je me demande si le dimanche d'avant, il n'y avait pas quelque chose aussi. Ah, la louange! Ah, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas été dans l'Évangile de Matthieu pour notre série. Donc, on lit au verset 35. On va regarder vraiment la fin du chapitre. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Je pense que par la providence de Dieu, on considère ça ce soir. La moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Dieu nous appelle à prier pour ça. On va considérer ce soir la compassion de Jésus. Et c'est un court passage, seulement quelques versets, mais qui est très important dans l'Évangile de Matthieu. J'y voue un message au complet parce que c'est un de ces points tournants, ces moments charnières. Pourquoi? Parce que, vous savez, Jésus est venu en mission. C'est quoi la mission de Jésus, bibliquement parlant? Vous pouvez dire avec verset à l'appui, quelle est la mission de Jésus? Oui. Sauver son peuple de ses péchés. Ça dit dans Matthieu 1, 21, quand l'ange a parlé, il dit, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu sais, c'est quoi t'avais dit, frère? C'est quoi t'avais dit?
Chercher et sauver ceux qui sont perdus.
C'est ça, exactement. C'est la même chose dit autrement. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. OK. Et donc, Jésus ici... Jésus n'agissait jamais pour lui-même, juste parce que lui voulait faire quelque chose. Il avait toujours un but, il était tout le temps en train soit d'enseigner la foule, soit ses disciples, des fois les deux en même temps. Il était tout le temps en train de faire quelque chose, il poursuivait un but, ok? Que ce soit dans ses enseignements, ses gestes, et même ici, on le voit. En fait, c'est pas juste un, ça nous résume un peu ce qu'il faisait parcourant comme ça les villages, tout ça. Puis là après ça on s'arrête puis on le voit voyant la foule. Et Jésus en fait, sa mission, il s'apprêtait à la confier à ses disciples. Parce qu'à partir du chapitre 10, vous allez voir, on a la liste des noms des apôtres qui est donnée, puis ensuite on a l'envoi, ok? Dans Matthieu 10, c'est l'envoi des disciples dans la mission de l'Évangile du royaume, ok? Donc Jésus préparait à ça, étant lui-même l'exemple de ce qu'il prêche, étant lui-même l'exemple de ce qu'il va demander aux autres, en motivation puis en attitude, parce qu'il ne leur demandait pas juste de faire une tâche, il voulait qu'il y ait le cœur que lui avait pour cette tâche. C'est pour ça qu'on voit sa compassion. Jésus, il venait remplir une mission de sauver son peuple de ses péchés, mais c'est parce que il y avait une compassion pour ces gens perdus qui étaient comme des brebis, qui étaient sans, qui étaient languissantes, abattues, sans berger. Et il voulait que ses disciples attrapent cette même vision du monde qui était autour d'eux autres. Et donc, Jésus leur transmet, avant de leur transmettre la mission, la tâche en tant que telle, il leur transmet la vision, le fardeau de cette mission qu'il leur donne, de voir le besoin de la multitude. Et la compassion de Jésus était en réponse à ce besoin. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il était languissant, abattu. Et donc, là, il y avait besoin d'être ramené au bon berger, d'être ramené comme brebis perdue. Mais pour ça, c'est ça. Les disciples devaient voir comme lui voyait. Pour ça qu'il parle de la moisson, il leur dit « la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers ». Il voulait les amener non seulement à une tâche, mais à une vision et que ça rentre dans leur cœur et qu'ils puissent eux-mêmes avoir ensuite la même motivation que Jésus avait. Et pour communiquer comme ça cette compassion que Jésus avait pour les foules, il utilise deux images. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais il prend deux images. Premièrement, celle, puis les deux étaient très connues. Jésus avait le tour de prendre des choses que les gens connaissaient, puis il amenait ça pour illustrer des vérités spirituelles. La première, c'est celle d'un berger et de ses brebis. Il dit, je revois la foule, puis c'est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous savez, une brebis pas de berger, c'est en danger. Une brebis pas de berger, il peut arriver n'importe quoi. C'est un danger pour la brebis d'être sans berger. Et ça, c'est dans le verset 36, et ça nous illustre le besoin de l'homme qui est répondu par Dieu. Parce que nous sommes des brebis errants, hein? Ça dit, nous étions tous comme des brebis. Nous suivions notre propre voie, mais l'Éternel a fait tomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Et donc, Jésus est le bon berger. Okay? Donc, c'est Dieu qui répond à ce besoin de l'homme. Ensuite, il change l'imagerie. Si vous voulez, il passe des animaux qu'il y a dans les champs aux champs eux-mêmes. Mais remarquez quand il dit au verset 37, il dit alors à ses disciples, la moisson est grande. Il ne dit pas le champ est grand. La moisson est grande. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Ici, il parlait des champs qui étaient prêts à être labourés, à être moissonnés. La moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Autrement dit, tout est prêt, mais il manque de monde pour ramasser les épis. OK? C'est pas comme, faut aller dans le champ, faut planter, puis... Non, déjà, c'est prêt, mais il manque de monde pour aller cueillir ce qui est déjà prêt. Pour aller pas cueillir, on dit pas cueillir, pour des récolter ce qui est déjà prêt. OK? D'ailleurs, quand on prie pour ça, le monde est prêt. Bon, c'est pas tout le monde qui est prêt dans le sens, c'est pas tout le monde qui va être prêt à avoir l'Évangile, mais dans les yeux de Dieu, l'œuvre du calvaire est accomplie, il ne reste qu'à aller chercher ceux qui sont perdus, ceux qui vont répondre à l'appel de l'Évangile. Et donc, c'est deux images que Jésus, ici, utilise pour communiquer cette compassion qui est dans son cœur, et de là, nous enseigne des vérités précieuses. Qu'on a besoin non seulement de comprendre, mais de vivre. Et bon, toujours en introduction, je pense que plus que jamais, et ça a ressorti, ceux qui suivent ou qui ont suivi la saga de ce qui arrive avec l'église en Californie, Grace Community Church, tout ça, le monde a besoin plus que jamais du bon berger. Vous savez, on a été jugé comme étant non essentiel, alors que les gens, c'est ce qu'ils ont besoin. Les gens n'ont pas besoin de drogue, les gens n'ont pas besoin de liqueur forte ou de boisson. Ils n'ont pas besoin d'échappatoire. Ils ont besoin de retourner à celui qui peut les sauver. C'est ça qu'ils ont besoin. Et donc, quand Jésus dit au verset 36, quand il voit la foule et qu'il est ému de compassion parce qu'elle est languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger, c'est exactement ce qu'on voit d'une façon vraiment spéciale en ce moment. Je veux dire, on vit dans des temps de misère, dans des temps où est-ce que les gens perdent leur appui, même nous, chrétiens, on trouve ça pas évident. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas le rocher sur lequel il peut s'appuyer, que sa vie est basée sur le sable mouvant, sur l'instabilité des vanités de ce monde. C'est le monde qu'on regarde en ce moment. Fait que vraiment, le passage qu'on regarde ce soir est d'une actualité criante. Parce que les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais on n'a aucun but dans la vie si on ne va pas au bon berger. Parce que pensez-y, là, les gens se rendent compte, « Wow, ben là, j'ai perdu ma job et tout ça, mais c'est quoi le but de la vie de toute façon? C'est-tu juste de travailler, puis de faire rentrer de l'argent à la maison, puis les enfants grandissent, puis ils vont à l'école, puis la roue tourne? » Moi, c'est comme ça que j'étais arrivé à voir mon besoin du Seigneur. Je dis, écoute, c'est la vie, ça n'a pas de sens si c'est juste ça. On est juste des êtres qui sont là pour manger, dormir, travailler, puis... Non, on a été créé pour être en communion avec Dieu. On est des brebis, mais on est fait pour être avec le berger de notre âme. Et donc, nous qui sommes de la bergerie, du troupeau racheté, on est de ceux qui peuvent pointer au bon berger. C'est lui l'espoir de ce monde. Si les gens ne se tournent pas vers lui, quand même que toute la situation reviendrait, qu'il n'y aurait plus de restrictions, qu'il n'y aurait plus de virus, qu'il n'y aurait plus rien, les gens seraient encore abattus puis languissants, misérables. Parce que ce qu'on a besoin, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de crise puis qu'il n'y ait plus de problèmes. Ce qu'on a besoin, c'est du bon berger. Une autre chose que je veux qu'on remarque encore en introduction, Jésus regarde la foule avec compassion. C'est quoi la compassion? Vous savez, j'ai déjà défini le mot miséricorde. Rappelez-vous, miséricorde, si on le prend selon la racine latine, misericardia, ta misère dans mon cœur, je ressens ta misère. L'idée de compassion, c'est con, c'est avec, passion, c'est d'aller vers l'autre avec cette, la passion de le rejoindre, la passion d'aller vers cette personne-là. Bon, si je vous donne la définition, je vais vous donner quelques définitions. Celle du Larousse, peut-être pas la meilleure, c'est plus pour me donner une idée. Un sentiment de pitié qui nous rend sensibles aux maux des autres. OK? Puis l'idée, c'est pour ça que je vois avec l'autre, je suis sensible et ça l'attise ma passion pour l'autre. Le dictionnaire biblique, qui se rapproche plus de ce que nous, on veut comprendre ce soir selon la parole de Dieu, c'est une attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens, à sympathiser envers eux. Voyez-vous comment ça nous, la compassion nous pousse vers l'autre? Puis l'idée, c'est ça, c'est avec passion, avec la passion de l'amour de Dieu, du souci pour l'autre. Le mot grec est utilisé pour... compassion, je ne vous le dirai pas parce qu'il est dur à prononcer, puis de toute façon, ça ne va rien vous dire parce que ça ressemble à rien qu'on connaît. Là. Mais le mot que Jésus utilise, bon, lui parlant en araméen, mais comment ici c'est donné dans notre Nouveau Testament, ça veut dire c'est un mot qui réfère à être profondément touché, comme si on vivait nous-mêmes la situation de l'autre. Okay? Donc, on peut voir qu'il y a quand même un rapprochement avec la miséricorde, ta misère dans mon cœur, mais l'idée que la compassion, ça nous amène vraiment à aller vers l'autre pour aller remplir ce besoin. Maintenant, je vous le disais, puis je veux juste revenir un peu là-dessus, dans le contexte plus large de l'évangile de Matthieu, ce qu'on considère ce soir, Jésus, dans le fond, il a donné les instructions de base sur comment ça marche dans son royaume. On a vu ça où, vous rappelez-vous? C'est où les lois du royaume, du roi de... Parce qu'on se rappelle Matthieu, ça nous présente Jésus le roi, n'est-ce pas? Le sermon sur la montagne, ok, chapitre 5, 6 et 7. Puis après, dans les chapitres 8 et 9, on voit Jésus à l'action. On le voit opérant des miracles, ok? Vraiment, c'est exclusivement ce qu'on voit pratiquement. On ne le voit pas beaucoup parler. On le voit un peu parler. On l'entend parler, mais beaucoup, on le voit à l'action. Parce que le but, c'est... Si cet homme-là est capable de parler de même, puis qu'il parle avec tant d'autorité, hein, il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parle comme avec autorité, ben il est capable de prouver ce qu'il dit avec ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait avec les miracles. Il montre qu'il a le pouvoir sur le monde physique, le monde naturel, le monde des esprits. Il a pouvoir sur toute chose parce qu'il est Dieu, fait homme. OK? Et donc, Jésus a comme ça, il a donné les instructions, il a démontré sa puissance avec les miracles. Et là, avant d'envoyer ses disciples pour qu'eux puissent faire de même, parce que Jésus leur dit, vous allez, puis vous allez avoir la puissance spirituelle pour appuyer ce que vous faites. Il les prépare à passer à l'action. Mais c'est important ici de noter que la foule et les disciples ont été enseignés par le Seigneur que sa compassion, c'est ça qui va les pousser à aller vers les autres. Même si tu peux avoir les plus beaux discours dans la vie, même si tu peux penser à l'action, tu as besoin de la bonne motivation. C'est ça qu'il va leur enseigner ici. Jésus n'était pas juste là pour faire des discours, puis il n'était pas juste là pour faire des actions salvatrices et miraculeuses, extraordinaires. Il était là pour transmettre ce qui était dans son cœur. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a un fardeau pour ce monde perdu. C'est ça qu'il voulait amener. Donc, il allait au-delà des instructions, au-delà de ce qu'il a démontré, puis il dit, voici, c'est ça mon cœur pour ces gens que vous regardez. OK? Fait que c'est là qu'on est rendu. Fait que vraiment, là, il amène les choses à leur point ultime avant de pouvoir... Il leur dit ce qu'il voulait dire, leur montrer ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il leur montre ce qui est dans son cœur. Là, il était prêt pour aller. Voyez-vous? C'est là qu'on est rendu dans Matthieu. Maintenant, je pense que c'est important pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, de prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Pourquoi? Parce que on a parlé un peu ce matin de la sanctification par les hommes. On peut faire les choses sur le pilote automatique. Et c'est une tragédie dans notre vie chrétienne quand on arrive là. On ne doit pas perdre de vue pourquoi on fait ce qu'on fait. Comme Jésus ici le rappelait, c'est parce que j'ai compassion pour ces gens-là. Ces gens, c'est des brebis languissantes, abattues, qui ont besoin d'un berger. La moisson est tellement grande, elle est prête, mais il y a si peu d'ouvriers. Donc, cette compassion qui nous pousse à aller vers l'autre, c'est la motivation qui va nous permettre de rentrer dans cette mission que Jésus-Christ a initiée ici avec ses disciples, à partir du chapitre 10, qu'on va voir bientôt, mais qui continue encore pour nous autres, parce que la mission, il n'y avait pas de date d'expiration dessus. On continue la même mission d'aller par tout le monde et faire des disciples, prêcher l'Évangile et faire des disciples. Donc, on va regarder trois manifestations de cette compassion-là de Jésus dans les versets qu'on a lus ce soir. D'abord, dans le verset 35, on voit son occupation journalière. Et ça manifestait sa compassion. Regardez ce que ça dit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc d'abord, on voit que Jésus parcourait. Il se promenait. OK? Jésus-Christ, son occupation, c'était... d'aller là où les gens étaient. Puis, on voit, j'ai dit que la compassion, c'est ce qui nous amène à aller vers l'autre. Jésus, dans sa compassion, se déplaçait puis allait vers les autres. OK? Et d'ailleurs, une foi qui est vivante, c'est une foi qui bouge, c'est une foi qui va vers l'autre, qui sort de la gêne, qui sort de la peur et qui va dans les autres, dans le monde des autres. Et ça dit qu'il allait dans leur synagogue, il allait où les gens étaient habitués d'aller. Il allait où les gens avaient leur façon de penser. Dans la synagogue, il y avait cette pensée religieuse de l'époque, puis il y avait leur tradition. Jésus allait là en plein milieu, puis leur prêchait la vérité. Il rejoignait les gens là où ils étaient. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Vous savez, on fait de l'évangélisation systématique, puis ça a sa place, puis je pense qu'on devrait continuer de le faire. Mais vous le savez, les gens qui sont conduits au Seigneur par d'autres, la majorité du temps, pour faire ici un test à l'aveuglette, là, mais c'est par des gens qu'on voit, qu'on côtoie. Hein, moi, c'est un ami que, bon, puis on pourrait faire le tour ici. Souvent, c'est ça, mais pour ça, ça prend des disciples comme nous autres qui ont cette compassion pour rentrer dans le monde. Puis pas dans le sens d'être intrusif, puis pas se mêler de nos affaires, mais d'aller là où les gens sont. Comment qu'eux autres, ils pensent, sont rendus où dans ce qu'ils pensent par rapport à Dieu, par rapport à l'éternité? De prendre le temps de s'arrêter, d'écouter, puis de là, amener la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus faisait. Il parcourait, il arrivait à quelque part, puis il prêchait la bonne nouvelle du royaume. OK? Donc, il parcourait comme ça, il prêchait la bonne nouvelle. Ça nous dit qu'il y avait trois aspects ici à son occupation journalière. Parce que quand on voit le verset 35, ça nous dit pas mal ce qui occupait son temps en général. Ça veut dire qu'à tous les jours, il faisait ça, puis qu'il a fait ça tout le temps. Mais ça nous réfère ici à ce qui était habituel pour lui, OK, dans le verset 35. Puis on voit déjà, ça donne le modèle pour les disciples après, là. Mais il faisait trois choses. Ça nous dit ici, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie. Enseigner, c'est prendre la parole puis la clarifier. C'est pas parce qu'elle est pas claire, mais c'est parce qu'on comprend pas tout le temps. Enseigner, c'est l'idée de amener, comme je vous disais, t'écoutes les personnes puis tu leur amènes la parole. Savez-vous que ça a sa place quand on prêche l'Évangile? T'sais, on ne fait pas juste prêcher l'Évangile comme une formule 1, 2, 3. Pis les gens, là, même ici au Québec, là, les gens n'ont aucune idée, même de nos jours. Dans les écoles, vraiment, les gens savent c'est qui Jésus-Christ. Ah, le petit Jésus. Il y a la tradition catholique puis tout ça. Mais les gens sont très illettrés. Peut-être pas le bon. Ouais, Bible illiterate. Ils sont illettrés bibliquement. OK? Il faut prendre le temps d'enseigner c'est quoi les choses de base, même sur des choses que nous, on prend pour acquis. Puis, ben oui, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité des morts. Les gens, là, quoi, maintenant, puis peut-être même plus les jeunes, mais même, je dirais, dans la trentaine, facilement, on se tromperait pas trop. Ils n'ont pas entendu ça à l'école, ils n'ont pas entendu ça dans la famille. Bon, peut-être qu'ils sont allés à la messe de minuit un petit peu. Mais c'est ce que moi j'ai connu quand j'allais à la messe quand j'étais petit, je me rappelle pas de rien. C'était pas en latin, mais ça avait pas besoin de l'aide, je comprenais pas plus. Donc, enseigner, clarifier. Puis pour ça, il faut prendre le temps de voir son rendu. En passant, des fois, quand on parle à quelqu'un de l'Évangile, puis c'est pas juste nécessairement ici parler à des gens par rapport à l'Évangile, ça peut être même à nos enfants, à nos gens proches, pour clarifier la parole, c'est savoir, eux autres sont rendus où? Puis qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-dessus? Une bonne façon de le faire, c'est de poser des questions. Des fois, on pense que les gens ont compris, puis n'ont pas compris. Ça vous est déjà arrivé? Vous parlez à quelqu'un du Seigneur, vous parlez de la Bible, puis tout ça. Puis là, hey, vous autres, vous trouvez donc que c'était clair, puis que, tu sais, ça fait donc du sens. Puis là, vous posez la question, qu'est-ce que tu penses? C'est une question pour avoir un feedback, là. C'est-tu clair? T'as-tu des questions là-dessus? Puis là, la réponse est, mon ami, je retourne à la case départ, elle n'a rien compris. T'es-tu déjà arrivé? Moi, des fois, puis là, tu dis, mon ami, ces choses, c'est spirituellement qu'on les discerne. Puis c'est le Saint-Esprit qui est vraiment, qui est l'enseignant, qui convainc. Mais il faut s'arrêter pour expliquer les choses, pour, pas que la parole n'est pas claire, mais des fois, le besoin pour, dans la tête des gens, d'être clarifié. OK? Prêcher, là, ça, c'est un autre aspect. Ça, c'est le mot qui nous parle de proclamer. Comme les héros, vous savez, quand il y avait un roi qui s'en venait et disait, ben, on a ça même, c'est pas juste d'un temps de la Bible, là, ben, oyez, oyez! Tu sais, oyez, ça veut dire écoutez, là. T'sais, oyez avec vos oreilles, là. Écoutez, écoutez, puis là, le roi de France d'ici, puis ouais, le roi s'en vient, puis OK, les héros comme ça. Pis ça, c'est pas les héros, là, comme les super-héros, c'est avec un A-U-T, là. Les héros, que, en anglais, ça vient de comme avec l'anglais Herald. Ceux qui étaient là, puis les crieurs publics, là, puis c'est ça qu'on fait, OK? On proclame, on dit Jésus est venu, la mission est accomplie. Puis l'idée, c'est que on proclame l'œuvre parfaite de Christ. Et on proclame l'imperfection de l'homme. On proclame comment Christ est venu tout accomplir, puis qu'il n'y a personne qui est capable de faire comme lui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'a gardé la loi de Dieu. C'est Christ seul qui l'a fait, puis c'est lui. Le seul moyen pour pouvoir être réconcilié avec Dieu. On proclame ces choses comme étant des faits, comme étant la vérité, comme étant le grand besoin des gens parce qu'on est perdu, parce qu'on a offensé Dieu, on a besoin d'un sauveur. En passant, les deux vont ensemble. Tu ne vas pas voir comment tu as besoin d'un sauveur si tu ne vois pas d'abord comment tu es perdu. C'est pour ça que la loi est si importante. La loi nous conduit à qui? À Christ. OK? Ça, c'est la prédication. Guérir maintenant. Oh, on va être controversé. D'autres, les baptistes, on ne parle pas de guérir. Parce que Dieu ne guérit pas dans les églises baptistes. Il fait juste guérir dans les églises pentecôtistes. OK? Non, je fais des plaisanteries, mais on comprend que l'idée des guérisons, puis je vais être très bref là-dessus. Il y a des moments dans l'histoire où est-ce que Dieu, ça disait, il appuyait le témoignage par des miracles, des guérisons, des choses surnaturelles comme ça. Même, il y avait les langues et tout ça. C'est des dons de signes qui étaient pour un temps. Mais Dieu guérit encore de façon surnaturelle. Ça ne veut pas dire que, mettons que moi je me présente comme étant un guérisseur, puis Dieu, ça, tu sais, des apôtres Paul, puis des comme on voit là, dans le livre des Actes, ça c'était pour un temps. Puis on voit ça à différents endroits dans la parole de Dieu, parce que il y avait, c'était des périodes de miracles. Pourquoi? Parce que ça confirmait la parole. Il y a eu ça avec Moïse. Pourquoi? Parce que là, il sortait de l'Égypte, fallait qu'il monte. C'est pas un charlatan, c'est vraiment Dieu qui l'envoie. Fait que Dieu faisait des miracles comme ça. C'est consistant. Toutes les fois qu'on voit des choses de même, c'est parce que Dieu veut valider sa parole. Okay? On a la parole, on n'a pas besoin de la valider plus qu'elle est là. Elle est complète, elle est fiable, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu fait encore des miracles et des guérisons. Mais surtout, ce que je veux, ça c'était juste comme un petit peu une parenthèse là-dessus, là, mais qu'est-ce qu'on voit Jésus quand il guérit ici? Il répond aux besoins. Encore là, c'est la compassion. Il y a des gens, vous savez, les maladies, là, ça brise le cœur, ça brise des vies. Je veux dire, c'est difficile de vivre des maladies. Des fois, il y a des maladies qui durent longtemps. On le voit des fois dans la Bible, bon, des gens qui étaient des choses comme aveugles ou muets ou sourds. Mais des fois, des gens avec... c'était leurs enfants qui étaient malades, la fille de Jairus qui en était morte. Et, bon, il y a différentes occasions qu'on voit dans la Bible. Mais l'idée, on voit Jésus qui va répondre aux besoins. Et je pense qu'il y a une place pour ça. On ne veut pas rentrer dans l'évangile social parce que c'est un piège et tout ça. Mais les chrétiens doivent être des gens qui ont une compassion qui nous appelle à répondre aux besoins des gens. Bon, on fait ça des fois pour des choses missionnaires comme là, comme on partageait ce matin avec la Venezuela, puis tout ça, on aide nos frères et soeurs qui sont là-bas. Mais aussi, des fois, ça peut être un voisin, quelqu'un de la famille. Les chrétiens, on doit être des gens qui, notre compassion, nous amène à remplir les besoins des autres avec cette compassion-là qui vient par le Saint-Esprit. Et justement, je pense que c'est le Saint-Esprit, si on est attentif à lui, il va nous amener comme ça à aller répondre aux besoins des gens qui sont autour de nous. Maintenant, une petite application par rapport à tout ça. Ça prend du temps pour faire ces choses. Il faut prendre le temps pour faire ces choses. On est dans une vie où est-ce qu'on court à gauche, à droite, puis il faut travailler. La Bible dit si on ne travaille pas, on ne devrait pas manger, puis il y a un temps pour chaque chose. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour clarifier la parole aux gens que Dieu place sur notre chemin? Est-ce qu'on s'arrête pour la proclamer, pour répondre à des besoins que le Seigneur met devant nous, puis clairement, le Saint-Esprit nous dit... J'aimerais ça que tu fasses quelque chose avec ça, pour aider cette personne-là, en l'écoutant, en l'aidant, en faisant quelque chose pour montrer l'amour de Christ qui est en toi. Ça prend du temps pour ça. La motivation, c'est la compassion. Mais vous savez, comme moi, des fois, le Saint-Esprit nous montre des choses, puis on n'écoute pas parce que là, on raisonne. Des fois, on est là, « Ah, Seigneur, il faudrait qu'on ouvre la bouche pour partager ou juste donner un traité, peu importe. » Où on est avec quelqu'un de la famille, puis là, oh, puis il dit des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis on sait qu'on doit dire quelque chose pour l'honneur de notre Dieu, puis il faut prendre le temps, il ne faut pas avoir peur, mais aussi il faut prendre le temps de s'arrêter, puis dire, OK, écoute ce que Dieu a à dire là-dessus. On a des fois des occasions de même. Les gens disent toutes sortes d'affaires, des fois, qui n'ont aucun bon sens, et c'est des occasions pour amener la vérité de la parole. Donc, ça, c'est la première manifestation de sa compassion, son occupation quotidienne. Ensuite, au verset 36, sa vision spirituelle nous montrait aussi comment il y avait de la compassion. On l'a lu, mais on va le relire. Voyant la foule, hein, voyez-vous, ses yeux ici affectaient son cœur. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Le cœur de Jésus était directement relié. Sa vision et son cœur, c'est dans Lamentation de Jérémie. En anglais, ça dit « mine eye affected my heart », mais en français, c'est... en tout cas, c'est ce que j'ai vu à affecter mon cœur. Les deux vont ensemble. Ce qui rentre par la fenêtre des yeux affecte ce qui est dans notre cœur. Ou du moins devrait. Et c'est une bonne façon de voir l'état de la compassion dans ma vie. Est-ce que je vois des choses, des personnes, des situations? Est-ce que j'entends des choses? Puis, au lieu de me toucher, puis de m'amener à enseigner, proclamer, amener la guérison de Christ? Est-ce que je tourne l'oreille? Est-ce que je regarde ailleurs? Jésus, quand il voyait, il répondait avec la compassion. Comment on voit les foules autour de nous autres? Comment on voit les gens dans nos familles? Est-ce qu'on les voit juste comme des gens tannants, comme des gens dérangeants? Parce qu'ils le sont, puis on est tous bons là-dedans, on peut tout être tannant puis dérangeant. En tout cas, moi, je sais, demander à ma femme, je peux être très bon pour être tannant puis dérangeant. Mais est-ce qu'on voit au-delà de ça? Est-ce qu'on voit des gens qui ont besoin du Seigneur, puis pourquoi ils sont tannants puis sont dérangeants de même, les enfants, parce qu'ils ont besoin d'une touche du Seigneur dans leur vie, ils ont besoin de croire à ce que nous, on a reçu? Est-ce qu'on les voit selon les yeux de la chair, autrement dit? Ou est-ce qu'on les voit avec les yeux de notre Seigneur, qui voyait qu'ils étaient, c'était des âmes languissantes et abattues? Puis en passant, je pense que même Jésus, quand il voyait la foule de même, il y avait peut-être une couple de pharisiens qui étaient là-dedans. Un petit Nicodème par-ci, un petit Joseph d'Arimathée par-là. Comprenez-vous? Il n'y avait pas juste les pauvres, puis les estropiés, puis tout ça. Il y avait ceux qui pouvaient bien paraître, mais savez-vous quoi? C'était autant des âmes languissantes et abattues. Parce que quand on n'est pas en Jésus-Christ, tant que Jésus n'est pas dans notre vie, on est languissant puis abattu. Puis on a beau avoir l'apparence religieuse, on n'est pas dans une bonne condition spirituelle. Peut-être que Jésus, dans cette foule-là, parce qu'on sait d'après les Écritures que Paul connaissait Jésus-Christ, pas personnellement, mais avant, il était là, il était autour, puis tout ça, on ne sait pas. Peut-être que Jésus l'a vu, puis il l'a vu comme étant aussi une brebis languissante. Puis Paul n'était pas un dur à cuire. Mais pourquoi il faisait ça? Parce que sa vie n'avait pas de sens. Il était bien religieux, bien zélé, mais il passait à côté de son Messie. Le Seigneur voyait la foule avec la compassion et ça le poussait à aller vers eux, puis ça passait au-dessus du dérangement. Dernièrement, je lisais l'histoire de Jésus qui parle à cette femme samaritaine au puits de Jacob. Je pense pas que Jésus était dérangé, mais quand on voit les disciples qui arrivent, eux autres étaient dérangés. Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Avec une femme? Samaritaine? Puis tu connais-tu sa réputation? Quelle illustration de la compassion de Jésus. Ça, c'est une femme pas mal dérangeante. Tu sais, je veux dire, si vous voulez être embarrassé, là, c'était pas mal la femme à qui elle allait parler pour un juif. Elle n'était pas du bon peuple. Elle n'était pas du bon style de vie. Elle n'avait rien. Puis c'est une femme. Un homme ne parlait pas comme ça à une femme de même. C'est encore même dans des pays musulmans, là, mais... Donc, socialement, il n'y avait rien qui marchait là-dedans. Là. C'était comme, wow, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais Jésus avait compassion pour elle. Puis, c'était plus fort que tout le stigma social puis tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce qu'il voyait ce que les yeux de la foi voient. Hein? Il voyait sa condition spirituelle. Et, non, c'est Jésus en plus, il est Dieu. C'est lui qui a même initié la conversation. Il est allé vers elle. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que notre vision spirituelle nous amène à voir au-delà de ce qui dérange, au-delà de la honte et tout ça de la personne, puis voir cette personne-là dans un besoin spirituel énorme? Je partageais avec ma femme dans notre belle grande marche qu'on a pris. Tu sais, des fois, on pense à des gens... on parlait de ça. Des fois, les gens les plus durs à atteindre, c'est pas les gros gars avec des tatous, puis tu sais, les personnes, puis tout ça. Des fois, c'est la personne toute bien, toute clean, puis tout ça, religieuse, respectable. Tu vois, ils sont plus durs. On doit avoir autant de... Fait quand je parle de compassion, poser ça sur quelqu'un là, qui est toute la vie tout croche, puis tout ça, avoue que la personne que sa vie est bien rangée, puis que toute clean cut, toute la... Sans Jésus-Christ, est tout aussi misérable que la personne dans la rue qu'on dirait hey, « ça fait donc bien dur sa vie ». Sans Jésus-Christ, tout le monde, on est misérable et languissant, abattu. que Dieu nous donne les yeux pour voir ça. Ça m'amène à la troisième manifestation de la compassion de Jésus. Et là, je vais prendre une expression, puis je vais vous expliquer pourquoi je le prends, mais le commandement suprême de Jésus. Regardez le verset 37. « Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Puis je dis, ben, le commandement suprême, c'est pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Oui. Puis ici, on le voit en action. C'est-à-dire que lorsqu'on aime Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes, on va être dans ce genre d'entreprise. Le Saint-Esprit va nous pousser d'abord dans la prière, puis ensuite à aller, parce que vous avez sûrement déjà entendu l'illustration sur ce verset-là, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Faites attention, si vous priez ça, nous on pense à notre voisin, à quelqu'un d'autre, mais Dieu peut dire « C'est toi que j'envoie. » Mais c'est ça ici, l'idée, c'est que si vous prenez des notes, vous mettez des références parallèles, verset 37-38, ça a tout à voir avec les deux grands commandements qui résume la loi d'aimer tout ton, de Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, puis ton prochain comme toi-même. Quand tu as ça dans ton cœur qui anime ton cœur, tu vois la grande moisson, tu vois que Dieu a tant aimé le monde, puis que cette moisson-là, il a versé son sang pour que les gens puissent être sauvés, puis par amour pour ces gens-là, on va se mettre à prier que le Seigneur envoie des personnes dans la moisson. Parlons un peu de prière. La Bible nous dit, et ici Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Savez-vous, Jésus nous demande ici de prier pour quelque chose qui humainement est impossible. Moi, je peux pas appeler, ben, je peux prêcher et essayer de convaincre le monde, puis je pourrais essayer, mais ça ne m'intéresse pas, d'essayer de manipuler le monde pour essayer d'aller dans la moisson. Mais si on veut le vrai résultat, la seule façon, c'est comme Jésus ici il dit, prier. Priez que le maître de la moisson envoie, parce que si on veut des vrais résultats selon Dieu, il faut que ça soit Dieu. On parlait ce matin, rappelez-vous, mon monsieur d'Al Capone, là, Georges, c'est un ouvrier qui est allé dans la moisson. Puis Dieu l'a utilisé, puis il y a des gens qui ont été amenés au Seigneur. Probablement qu'était la réponse précise à cette prière-là. Je ne sais pas ce que la fille a prié pour la conversion de son papa, mais peut-être qu'elle disait aussi... Utilise-le pour des gens comme lui en rejoindre d'autres. Il y a quelqu'un qui a prié le maître de la moisson, puis le Seigneur a envoyé cet homme-là, cet ouvrier-là, dans la moisson qu'il avait pour lui. La prière. Ici, ça dit « Priez le maître de la moisson ». D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On prie celui qui est en charge. Quand on prie le maître de la moisson, on n'est pas en train de dire à Dieu qu'est-ce qu'il a besoin de faire, puis où il y a des besoins. On ne sait même pas nous autres mêmes. Bon, on est en train de manifester à Dieu l'œuvre de compassion qu'il met dans nos cœurs. Dieu, je vois, il y a tellement de grandes moissons, il y a tellement de brebis languissantes puis abattues. Puis, la moisson, Jésus a dit, elle est blanche, dans Jean, au chapitre 4. Elle est blanche, elle est prête. Dieu intervient, fait quelque chose. C'est pas parce que Dieu a besoin d'être informé, puis il sait pas où aller, puis il sait pas quoi faire. Mais ça, on revient à ce point de départ-là qu'on regarde. C'est l'idée de la compassion. Est-ce qu'on a cette compassion qui nous pousse à prier, à intercéder auprès du Seigneur? Venez avec moi dans Ésaïe 30. On va aller voir un passage dans le merveilleux livre d'Ésaïe. Si on prenait Ésaïe comme un citron, puis on le pressait, il ressortirait beaucoup de Jésus-Christ, mes amis. C'est le prophète messianique de l'Ancien Testament et qui parle du Messie, c'est incroyable. J'ai étudié le chapitre 30, c'est ça, Ésaïe 30. Regardez verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oh, j'aimerais ça que le verset finisse là. Comme dans Ézéchiel 22:30. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je vais faire une application à la prière dans ce verset-là. Vous savez, la prière, c'est pas un fardeau. La prière, c'est simplement de parler à notre Père Céleste. La prière, c'est la tranquillité et le repos de notre salut. C'est le calme et la confiance qu'on a en Dieu qui est notre force. Mais ici, ça dit, vous ne l'avez pas voulu. Rappelez, ce matin, j'ai dit qu'on peut être dans une prison de fais ci, fais ça. Ou on peut être dans la liberté de je veux faire ci, je veux faire ça. Ici, Dieu a dit, vous ne l'avez pas voulu. Est-ce qu'on veut prier ou c'est juste quelque chose que j'ai à faire? Ah, Dieu m'a dit, il faut prier le maître de la moisson. Faut que je le fasse. Est-ce que c'est la seule motivation que j'ai, un sens du devoir? Un sens du devoir, c'est pas mauvais. Mais pour une motivation, c'est pas suffisant. C'est la compassion, c'est le vouloir, parce que c'est le désir brûlant dans mon cœur. Dieu, ces personnes-là sont en voie vers l'enfer, ils vont mourir sans toi. Seigneur, interviens. Je termine avec une pensée ce soir. Demandez simplement à Dieu de sonder nos cœurs. On a parlé de compassion ce soir. On sait qu'il y en avait dans le cœur de Jésus. On sait que ça l'affectait son quotidien, son occupation journalière. Ça l'affectait sa vision. Ça l'affectait sa vie de prière. Qu'en est-il de nous? Et je dis pas sonder vos cœurs. Demandons à Dieu de sonder nos cœurs. Parce que nos cœurs sont trompeurs. On peut essayer de se faire, on peut se faire croire des affaires. Mais Dieu, toi, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Est-ce que la compassion est ce qui motive mon occupation, ma vision spirituelle, ma vie de prière? Est-ce que c'est ça qui me pousse comme ça vers les autres? Parce que je pense qu'on est appelé à bien plus qu'ici que imiter Jésus. Dieu veut reproduire en nous le cœur que lui-même a pour ce monde perdu. C'est pas, oh, je vais essayer d'imiter Jésus et d'avoir la même compassion. Dieu, sonde mon cœur. Dieu, cette compassion que tu as pour les foules, pour la moisson qui est blanche, reproduis-la dans mon cœur. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Jésus a donné tout ça avant même de leur dire de s'en aller. Pourquoi? Parce que si tu t'en vas sans ça, tu t'en vas à vide. C'est la compassion dans le cœur qu'il avait besoin, parce que il y en a un des 12 qui a tout fait qui était supposé. Il a tout, même, les autres ne sont même pas rendus compte. Judas. Il a tout fait comme les autres, ça a passé inaperçu. Mais il manquait l'essentiel. Il n'avait pas la compassion dans son cœur. Il a passé à côté de l'essentiel. Donc, je pense qu'on peut réfléchir avec le message qu'on vient de voir ce soir à l'état de nos cœurs, comme je disais, Seigneur, sonde mon cœur. Comment est la compassion dans ma vie? Mais aller aussi un pas plus loin, Seigneur, que cette compassion porte du fruit. Je veux pas juste que ce soit des vœux pieux. Seigneur, que ta compassion m'amène dans le monde des autres, à aller vers eux, les écouter, me laisser déranger, me laisser sortir de ma zone de confort, parce que mon désir pour leur âme éternelle est plus grand que le désir de mon confort personnel. Seigneur, non seulement que cette compassion soit dans mon cœur, mais qu'elle déborde, autrement dit, qu'elle déborde pour faire la différence dans ce monde qui en a tellement besoin. Il y en a toujours eu besoin, Mais mes amis, si on ne s'en rend pas compte de nos jours, on est vraiment endurcis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous visite son peuple. J'entendais un pasteur pas plus tard que ce matin. Ben, je ne l'écoutais pas ce matin, mais... En fait, c'est pasteur Hilmer. Il était Hilmer. Il était... Enfin, j'ai les alertes de leur église sur YouTube, puis j'ai regardé un petit peu le service, puis là, bon, il parlait, puis... Les personnes venaient de chanter un chant, puis il a fait remarquer, il dit... Ah, on dit le monde, ça fait donc bien dur, puis ça, on a besoin d'un réveil, puis... Il dit, mes amis, le réveil, ça a toujours commencé avec le peuple de Dieu. La solution pour un réveil, c'est pas le monde. Le monde est mort. Tu peux pas... Le monde a besoin de passer de la mort à la vie. Ceux qui ont besoin d'être réveillés, c'est le peuple de Dieu, c'est nous, ça. Et Dieu, à travers, vous regarderez à travers la Bible, à travers l'histoire, c'est son peuple qui a visité quand il a voulu aller rejoindre les foules puis faire une différence dans le monde. Et nous qui avons besoin d'être réveillés. Pourquoi? Parce que nous, on a la vie de Christ. Les autres ont besoin de l'avoir. Mais il faut qu'ils pensent par nous qu'ils l'avons déjà. C'est comme ça que Dieu agit. Donc, que Dieu puisse avoir pitié de nous, son peuple. Merci Seigneur qu'on a pu s'arrêter avec ce passage simple, mais profond et précieux. Ah, merci pour les évangiles où est-ce qu'on on est témoin de la magnificence de la grâce de notre Seigneur Jésus quand il était sur terre. Ah, merci que ce soir on a pu s'arrêter à considérer son cœur compatissant envers les foules, envers la moisson. Ah Seigneur, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs pour révéler l'état réel dans lequel ils sont. Et Seigneur, aie pitié de nous. Et Seigneur, que la compassion de Christ soit notre motivation, que ça nous pousse à aller vers les autres. Ça nous pousse à les voir comme tu les vois. Que ça nous pousse à prier. Pas parce qu'il faut le faire, mais parce que c'est le feu brûlant dans notre cœur. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.